Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM. Bienvenue dans Comme si vous y étiez, la plage de retransmission, de conférences, de séminaires ou de débats pour penser le monde et décloisonner les savoirs sur notre antenne. Les assises de l'attention se sont déroulées le 19 mars 2022 à la Bellevilloise. Elles étaient organisées par le collectif Attention qui lutte contre la surexposition aux écrans. Nous passons en effet un temps exponentiel sur nos smartphones, ordinateurs, tablettes et toutes sortes d'objets numériques ancrés dans notre quotidien. Notre attention est ainsi captée par l'oligopole d'Internet qui exploite nos données personnelles. Et l'industrie numérique est alors pensée comme une mutation du capitalisme vers l'économie de l'attention. Alors les conséquences de la surexposition aux écrans des plus jeunes sont de mieux en mieux connues, documentées et s'avèrent inquiétantes. C'est pourquoi le collectif milite pour protéger notre attention et en faire un bien commun à l'instar du sol, de l'eau ou de l'air. Mais il ne s'agit pas seulement d'usage. Penser les conséquences du numérique sur nos vies revient à s'interroger sur quelle société nous voulons construire à l'heure de la réalité virtuelle et d'une numérisation sociale et politique qui s'impose sans débat ni démocratisation de ces enjeux. Souvent présentée comme une technologie verte, l'industrie numérique a pourtant un lourd impact sur le climat et la biodiversité. Dès lors, les assises de l'attention avaient pour thème « La planète numérique est-elle viable ?» Cause Commune vous propose d'écouter en podcast ou en rediffusion les tables rondes de ces assises de l'attention comme si vous y étiez. Des philosophes, des sociologues, des psychologues et des élus politiques ont débattu des différents enjeux de l'attention au cours de 3 tables rondes, un sujet décidément crucial pour le siècle à venir. Troisième et dernière discussion, attention et politique. Quelle politique pour une planète menacée par le numérique ? C'est avec Emmanuel Morel, Bénédicte Pétel, Dominique Bertinotti, Nelly Garnier et Maxime Dégaillé. Juliette Rode est à la modération de cette table ronde.
Cause commune, la voix des communs.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être, on va bientôt pouvoir se dire bonsoir mais pas encore tout à fait, merci d'être encore tout à fait nombreux pour cette troisième et dernière table ronde qui réunit donc 5 personnalités politiques. Tout l'échiquier politique n'est pas représenté mais on a quand même un bon éventail, un bon spectre des sensibilités politiques qui sont représentées aujourd'hui. Un grand merci à nos 5 intervenants de nous faire le plaisir d'être là. Je vais vous présenter rapidement, juste un mot pour me présenter avant. J'ai monté une association qui s'appelle Saisir, qui est une association d'éducation populaire, d'éducation aux médias, et je travaille à la Commission nationale du débat public, qui est une autorité indépendante. Voilà. Alors, donc, à mes côtés, j'accueille Bénédicte Pétel, députée LREM des Hauts-de-Seine. Vous êtes membre de la Commission aux affaires sociales. Vous avez enseigné plus de 15 ans en REP. Et vous avez accompagné Caroline Janvier donc, dans les travaux pour l'élaboration de la proposition de loi pour une politique de prévention à la surexposition des enfants aux écrans. Dominique Bertinotti, vous êtes vice-présidente de Génération Écologie, membre du conseil politique du candidat vert Yannick Jadot et ancienne ministre déléguée à la famille sous François Hollande. Nelly Garnier, vous êtes conseillère de Paris, conseillère régionale Île-de-France, Les Républicains. Vous conseillez la candidate Valérie Pécresse sur les questions liées au numérique. Et vous êtes autrice du livre « La démocratie du like » qui est donc à votre disposition à la librairie, qui est paru aux éditions Bouquin. Place à la gente masculine. Maxime Dégaillé, vous êtes également conseiller régional Île-de-France, PS. Vous êtes secrétaire national au Parti Socialiste en charge de la prospective et de la transition numérique, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, et vous avez écrit un essai intitulé « La grande dépossession pour une éthique numérique européenne ». Et enfin, Emmanuel Morel, vous êtes eurodéputé pour le groupe La Gauche au Parlement européen et vous avez beaucoup travaillé sur les questions, vous faites partie de la commission intelligence artificielle, c'est ça, et vous avez beaucoup travaillé sur les questions de 5G. Alors, ma première question, elle va être très simple, je vais simplement rebondir hein, sur le rappel des propositions du collectif Attention qui a été fait juste avant. Je vais vous demander, parmi ces 9 propositions qui ont été citées, d'en choisir une et de me dire pourquoi c'est celle-ci qui vous parle le plus. Comment est-ce que vous avez été amené à la porter au fil de votre vie politique, à la défendre? Comment est-ce que le candidat que vous soutenez envisage éventuellement d'agir sur cette question en cas de victoire? Ou comment, pour la majorité, est-ce qu'un bilan de la dernière mandature peut être dressé sur cette question-là? Je vais vous donner la parole successivement. Peut-être qu'on peut commencer tout simplement, géographiquement, par vous, Maxime Degaillet.
Oui, d'abord, merci de nous accueillir, merci d'avoir ce débat, parce que c'est des questions, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, qui ne sont pas toujours au cœur des échanges politiques, il faut le reconnaître, et on ne traite pas toujours les questions numériques sous les angles sur lesquels vous les traitez vous-même. Alors, pour vous répondre directement, j'ai regardé moi avec attention évidemment vos propositions, et moi celle qui m'interpelle le plus c'est d'une certaine manière la dernière qui est finalement le droit à la protection de l'attention. Pourquoi? D'abord parce que dans les autres mesures que vous mettez en avant, qui sont toutes justes et intéressantes, je pense que on pose de nouveau la question de la responsabilité aux usagers pour une grande partie d'entre eux. Il faut se protéger d'eux. Et il me semble, moi, que la question aujourd'hui, y compris des dérapages du numérique, nécessite d'avoir peut-être un rapport plus critique aux acteurs du numérique. Il y a quand même des mécaniques, et on ne peut pas demander aujourd'hui de se protéger. J'entendais l'interpellation tout à l'heure qui nous était faite. On ne peut pas nous demander de nous protéger des écrans, de ses effets, lorsque, dans le même temps, eh bien, les acteurs du numérique, les plateformes, dans leur système même, eh bien, mettent en place des éléments de dépendance, des notifications. Et donc, je crois, moi, que peut-être que je serai un peu moins social-démocrate qu'on ne pourrait l'attendre, mais il me semble que le sujet majeur, c'est précisément la capacité de remettre en cause cette extension du domaine de marché, ce capitalisme mental. Et ce n'est pas seulement en essayant de s'en protéger par nous-mêmes qu'on y arrivera. Je pense que ça nécessite d'attaquer plus fortement eh bien, ce qui fait la dynamique, la mécanique aujourd'hui de la révolution numérique. Et donc, c'est à ce titre-là que je trouvais que c'était la proposition qui me semble la plus intéressante. Alors comment j'ai pu, et on a pu la traduire les uns les autres, c'est en réalité une problématique très émergente qui n'est pas totalement affirmée. J'ai peut-être utilisé à l'instant des mots un peu sévères. Et aujourd'hui, reconnaissez-le, il y a une forme de cécité sur ces problématiques-là. Il y a eu une fascination sur le numérique et le débat n'est pas aussi simple qui n'y paraît, c'est-à-dire qu'il y a des avantages au numérique. C'est parce qu'il y a justement des avantages au numérique qu'il est bien difficile aujourd'hui d'avoir une lecture qui soit une lecture totalement critique. Et c'est au nom de ces avantages-là, au nom de ces avantages-là, qu'on est prêt aujourd'hui à revoir beaucoup de choses et finalement à accepter une marchandisation supplémentaire de notre société. Je parlais avec Emmanuel Morel tout à l'heure en aparté et on évoquait tous les deux l'homme unidimensionnel de Marcuse. On est aujourd'hui dans une société industrielle où on dit que, et où il disait qu'il y avait un caractère rationnel dans son irrationalité. Ben, je crois aujourd'hui qu'avec les ravages ou les méfaits du numérique, on a franchi une étape supplémentaire et c'est pour ça qu'il me semblait que cette proposition-là méritait d'être portée de manière un peu plus ample.
Merci beaucoup, oui, Madame Pétel.
Merci pour votre invitation. Donc moi, je remplace Caroline Janvier qui n'habite pas la région parisienne, donc c'était un peu plus compliqué pour venir. Et donc moi, je m'intéresse plus particulièrement aux enfants de par ma profession, et je voulais remercier ceux qui ont traduit en plusieurs langues leur flyer, parce que je suis devenue aussi professeure du PE2A, donc pour les enfants non francophones, et j'étais prof avant en REP. Donc vraiment, je trouve que c'est une excellente idée et à développer. Ça, c'était une petite parenthèse. Nous, on a construit avec Caroline Janvier, donc c'est quand même, je voudrais rendre à César ce qui est à César, hein, c'est elle l'autrice de ce projet de loi, mais on y a participé. Ça a été une construction commune. Hein, ça a été, on a d'abord eu un article dans Le Monde avec plus de 100 députés signataires. On a co-construit cette proposition de loi via une plateforme avec 2000 avis, 450 contributions et quérites. Et elle, vous l'avez dit, elle est en 6 articles. Je vais pas tout vous détailler. Mais elle prévoyait l'établissement d'une plateforme numérique d'information à destination des parents. Elle prévoyait aussi d'intégrer une formation des professionnels de santé et du secteur médico-social, mais aussi tous les professionnels de la petite enfance. Cette loi prévoyait aussi d'insérer des recommandations touchant à la bonne utilisation des écrans pour le jeune public dans le carnet de grossesse. Et elle prévoit aussi d'intégrer une politique de prévention aux risques liés aux écrans dans les services de PMI et que cette politique soit aussi dévolue au président du conseil départemental, puisque vous savez que toute la partie enfance, PMI est gérée par le département. Alors nous, vous m'avez demandé aussi comment le gouvernement s'est emparé du sujet. Alors, on a eu d'abord la loi 2018 qui interdit le portable dans les établissements scolaires, dans les écoles et les collèges, pendant toutes les activités liées à l'enseignement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On a eu la PPL, la proposition de loi Laetitia Avia, mais qui a été déclarée non conforme par décision du Conseil constitutionnel, hein, qui obligeait le retrait de contenu manifestement haineux en ligne. On a eu la proposition de loi d'Erwan Malanan visant à combattre le harcèlement scolaire et qui proposait le droit à une scolarité sans harcèlement et une prise en charge des victimes des harcèlements scolaires et universitaires. On a eu la PPL Studer qui proposait à encourager l'usage du contrôle parental en proposant notamment la préinstallation obligatoire d'un dispositif de contrôle parental sur les appareils connectés. Ensuite, il y a eu aussi les mesures du gouvernement. Alors, peut-être que je vais être très rapide. On a eu très récemment, en février 2022, un plan pour un usage raisonné des écrans pour les enfants et les jeunes avec la plateforme « Je protège mon enfant ». Et donc, en deux parties, je protège mon enfant des écrans et je protège mon enfant de la pornographie avec des séries de vidéos, d'outils pour aider les parents à aborder le sujet avec les enfants. Alors, on a aussi la plateforme des 1000 jours, toujours avec des vidéos pour expliquer aux parents comment, avant 3 ans, éviter l'accès aux écrans aux enfants ou au moins les accompagner quand, par exemple, on échange avec les grands-parents ou des choses comme ça. Et en privilégiant les interactions, le lien, les jeux et les activités physiques. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il y a aussi la journée contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Il y a eu aussi le programme phare pour lutter contre le harcèlement, avec notamment les ambassadeurs pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement.
Merci beaucoup. Est-ce que simplement sur la proposition de loi, donc pour une campagne de prévention pour lutter contre la surexposition des enfants aux écrans, est-ce que vous pouvez juste simplement nous dire où elle en est ? C'est-à-dire qu'est-ce que...
Sur la campagne avec la plateforme. Alors, il y a aussi des états généraux qui se développent dans les départements pour sensibiliser les parents aux écrans. Ouais. Ça a été lancé en février 2022, hein, donc c'est un petit peu tôt pour
en
évaluer.
Fait, je me demandais juste à quelle étape du cheminement on est. Sur la proposition de loi de Caroline Janvier.
Excusez-moi, j'avais pas bien compris votre question. Allez. Alors, écoutez, en fait, le calendrier législatif étant interrompu, hein, on a eu une suspension des travaux parlementaires fin février, j'espère qu'elle sera portée à la prochaine mandature. Voilà. C'était la proposition 1. Disons qu'il y en a... Elles m'intéressent toutes.
Oui.
là, j'ai préféré me concentrer sur une, mais j'aimais bien la dernière aussi sur le non numérique, le droit au non numérique, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des publics précaires, c'est aussi un vrai sujet.
D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Morel.
Merci pour l'invitation. Moi, je vais vous parler de publicité. C'est la mesure, je ne sais pas quel numéro c'est, mais un espace public préservé des écrans publicitaires. Enfin, j'élargirai mon propos, mais d'abord, dire je ne suis pas du tout un spécialiste du numérique, de l'intelligence artificielle, de la 5G. J'y suis venu complètement par hasard. Mon premier mandat de député européen, je siégeais dans la commission commerce international. Donc, a priori, on est assez éloigné. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une partie entière du commerce qui n'était pas traitée dans les régulation européenne, qui était le e-commerce. Il y a une explosion exponentielle du e-commerce entre l'an 2000 et 2020. Et il n'y avait absolument aucune règle. La dernière directive qui traitait vaguement du sujet, c'était 2000. On est mon deuxième mandat, donc 2019, il n'y avait rien. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, au départ, sur un angle de protection, pour dire la vérité, de l'industrie européenne et française, c'est-à-dire la contrefaçon. Parce qu'en fait, les plateformes d'hébergement, les gros Amazon, Alibaba, AliExpress, sont des repères de produits contrefaits, de produits dangereux, et de produits qui ne respectent pas les normes européennes. Aujourd'hui, quand vous achetez, enfin je suppose dans cette salle, c'est pas trop le cas, mais quand vous achetez un produit sur une plateforme, celle que je viens de citer, même d'autres, vous avez une chance sur deux pour que ça soit un produit contrefait ou un produit qui ne respecte pas les normes européennes. C'est énorme, c'est colossal. Et par ailleurs, la contrefaçon, ça fait perdre à peu près 435 000 emplois aux industries, aux entreprises européennes. Donc moi, je suis rentré dans cet angle-là. Et finalement, j'étais un handicapé du numérique et je n'avais pas une réflexion poussée sur le numérique. Le premier à m'avoir parlé sérieusement de ces questions, il est dans la salle, c'est Yves-Marie. Il a même écrit un livre dessus, La guerre de l'attention, qui est un très bon livre, je le recommande, à lire sur papier, évidemment, pas sur Kindle. Et je reparlerai de Kindle, c'est très important. On a eu un débat législatif important là-dessus. Bah, tout ça pour vous dire que moi, je suis arrivé sur les questions du numérique par le biais. Et puis, ce qui m'a intéressé, parce que quand même, je suis un homme de gauche, donc mon travail, pour moi, c'est surtout contenir la progression de la société de marché. Et considérer, quand on est un militant de gauche, on est un militant de l'émancipation, qu'il faut combattre tout ce qui contribue à l'aliénation. Et s'il y a vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, contribue à l'aliénation, sous toutes ses formes, c'est le smartphone. Parce que le smartphone, c'est un peu l'objet iconique de l'aliénation moderne, qui à la fois révèle une idéologie, mais aussi façonne une idéologie. Et c'est en ça que moi je suis totalement marxiste, je pense que la marchandise n'a pas seulement une utilité sociale, c'est pas seulement un objet, c'est porteur d'une idéologie. Et alors de ce point de vue-là, le smartphone et tout ce qui va avec, c'est vraiment le produit le plus emblématique. Et donc dans mon deuxième mandat, je me suis plus orienté commission des affaires juridiques, mais aussi dans la commission spéciale sur l'intelligence artificielle, c'est un domaine dont on ne parlait pas et dont on parle de plus en plus, sur les questions de régulation de ce qu'on a appelé le Far West numérique. Et là, on est en ce moment, là, au moment où on se parle, on est en ce moment dans une très grosse bataille avec deux textes qui sont importants, le Digital Service Act, le DSA, le Digital Market Act, le DMA, qui a vocation à réguler un petit peu un domaine où il n'y avait ni règles ni lois. Et où on a des interlocuteurs qui ne reconnaissent ni les frontières, ni les États, ni les règles, ni les normes. Parce que les GAFAM, au-delà de tout ce qu'on peut dire, je parlais d'idéologie tout à l'heure, mais c'est aussi un objectif politique. C'est la contestation du rôle des États, du rôle de la politique et donc du rôle des citoyens dans la régulation des contenus. Et on est face quand même à une situation totalement sidérante et presque inédite où aujourd'hui vous avez des oligopoles privés américains qui décident de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas. Enfin, c'est ça dont on parle, quoi. Donc, on a essayé de réguler. Et pourquoi je parle de la publicité ? Parce que moi, c'était mon obsession, c'est de mettre un terme... alors, ça concerne bien sûr la protection des données, c'est fondamental, mais de mettre un terme à ce qu'on appelle la publicité ciblée. C'est-à-dire que dès que vous consultez un site, la plateforme, elle recueille des données, et avec ces données, elle va, puisque vous êtes considéré comme un consommateur exclusivement, et pas comme un citoyen, elle va utiliser ces données pour influer vos comportements d'acheteurs et de consommateurs. Et donc, on a mené un gros travail totalement transpartisan. Il faut dire la vérité, il n'y a pas que, des écolos ou il n'y a pas que la gauche. Ça concerne tous les partis pour essayer de restreindre un peu le rôle de la publicité ciblée. On n'y est pas parvenu, parce que moi j'avais déposé un amendement, c'était l'interdiction de la publicité ciblée en général. C'est, je considère que, après tout, parce que quand même, quand on réfléchit un tout petit peu, nous travaillons gratuitement pour les plateformes. Puisque nos données, elles sont à nous, elles sont utilisées à la fois pour être vendues à d'autres boîtes ou pour de la publicité. Donc déjà, on travaille gratuitement et j'estimais que ce n'était pas forcément nécessaire de maintenir ce dispositif. On a eu une victoire, bon, personne n'en parle parce que c'est le Parlement européen, tout le monde s'en fout, mais c'est quand même une victoire importante, c'est l'interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs. C'était un combat décisif. On a eu une deuxième victoire, là aussi personne n'en parle, mais c'était quelque chose d'éthiquement indispensable, c'est l'interdiction de la publicité ciblée fondée sur des données sensibles. L'orientation sexuelle, l'appartenance culturelle, etc., etc. Bon, ça, c'est les deux domaines où on a eu des victoires. Mais on a perdu sur l'interdiction généralisée. Pourquoi ? Parce qu'on a en face de nous des groupes et des intérêts. Hein, juste pour vous donner un exemple, les GAFAM, cette année, ils ont dépensé 97 millions d'euros de lobbying au Parlement européen. Au Parlement européen, 97 millions d'euros. Vous voyez ce que ça représente ? Bon, on a perdu là-dessus. Et l'argument des boîtes, c'était de dire, bah oui, mais notre raison d'être, c'est la publicité. Donc, si vous faites ça, vous allez nous couper nos marges de manœuvre, notre chiffre d'affaires, nos bénéfices, nos emplois. Vous connaissez l'argumentaire. Donc, on a perdu là-dessus. On a gagné sur la publicité ciblée sur les mineurs. Mais plus largement, moi, j'ai déposé plusieurs résolutions au Parlement sur les questions de publicité. Alors, à la fois dans l'espace public et, plus surprenant, enfin, ça va peut-être vous surprendre, dans l'espace tout court. Parce que vous avez plein de projets. Alors, je crois que François Ruffin en avait parlé à l'Assemblée nationale, mais on en parle aussi au Parlement européen, de publicité dans l'espace. Vous avez des boîtes qui veulent, via des satellites, soit projeter de la publicité dans l'espace, alors que l'espace, on pourrait considérer que c'est un bien commun, enfin, par définition, un bien collectif, soit en partenariat avec YouTube, projeter des publicités qui seraient comme ça, en continu, sur des écrans et tout ça. Bon, moi, pour l'instant, la résolution, je ne sais pas ce que ça va devenir, j'attends la réponse de la Commission. Mais en tout cas, voilà, moi j'essaye, partout où c'est possible, dans tous les espaces où c'est possible, de contenir l'emprise de la société de marché. Et pour moi, la publicité, c'est finalement le parangon de cette société de marché qu'on combat. C'est pour ça que j'ai retenu cette proposition, mais parmi tant d'autres qui sont évidemment intéressantes.
Merci beaucoup. Donc, trois interventions, trois propositions différentes pour l'instant. Madame Bertinotti, quelle est celle que vous retenez ?
Oui, alors, Marcuse a été cité. Moi, je vais vous citer, c'est dans le dernier numéro de la revue Social Terre, un propos d'André Gors, qui remonte à déjà assez loin, mais qui écrivait, qui posait la question... Pourquoi n'en avons-nous jamais assez ? Parce que c'est bien aujourd'hui la question qui se pose dans nos sociétés. Et donc, le numérique n'échappe pas à cette question. Et il y répondait parce que la production de besoins artificiels est consubstantielle au capitalisme. Bon, c'est une façon dont il a posé le problème, mais dans le même temps, il écrivait un livre sur la frugalité. Puis, les temps sont passés, on n'est pas du tout dans cette optique-là, et le fait qu'on puisse discuter du numérique, toute proposition sur le numérique ne peut être comprise que si on se repose les fondements de notre société aujourd'hui, de ce pourquoi on produit et qu'on produit toujours plus, et de ce pourquoi on consomme et on consomme toujours plus. Sinon, on reste, soit on fait reporter sur l'individu, soit on est dans des réponses très parcellaires, sans analyser le fond de ce qui se passe aujourd'hui. Et le numérique n'échappe pas à cette réflexion. Pour nous, je vais dire globalement, dans le milieu écologiste, le numérique, il y a, je dirais, deux impératifs. Un impératif de sobriété, face au poids croissant du numérique, et je pense que vous l'avez abordé au cours de cette journée, et ça n'est pas rien. Et ça n'est pas rien. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens ne se rendent pas compte. Ils n'en voient que terminal, hein, le smartphone, les écrans, Netflix, mais sur la façon dont c'est décidé, construit, ce que ça suppose comme dégâts sur l'environnement et ensuite sur la santé, tout cela est très peu explicité. On comprend bien pourquoi, et je vais prendre juste un petit exemple. La crise sanitaire a révélé une chose qui est au demeurant très intéressante, c'est qu'il a été confié par l'État français à Microsoft Azure de devenir, c'est le prestataire principal de la plateforme de données des santé, de santé des Français. Et c'est quand même assez effrayant, si nous réfléchissons en tant que citoyens, de se dire que c'est Microsoft Azure qui maîtrise nos données de santé. Donc on voit bien que le problème du numérique, dans sa globalité, est quelque chose de fondamental. Voilà. Le deuxième aspect, et qui est étroitement lié à cela, et qui va conduire aux propositions que j'ai choisies, c'est qu'il n'y a aucune initiative démocratique en matière de réflexion sur à quoi sert le numérique, qu'est-ce que nous voulons comme numérique, et on peut le voir, il y a eu la Convention citoyenne du climat, il y a eu des propositions très précises sur justement le numérique, sur lesquelles le gouvernement s'est assis, alors maintenant on dit royalement, mais royalement. Bon, donc je tiens à dire qu'il y a eu des opportunités pendant cette mandature. Delphine Bateau a porté 2 amendements pour précisément répondre à votre proposition un espace public préservé des écrans publicitaires animés qui a été retoqué. Alors qu'il y avait là une très belle opportunité, finalement, de donner satisfaction. De la même façon, lors d'une initiative de révision potentielle de la Constitution, elle a déposé une charte des droits du numérique comme devant être intégrée à la Constitution. De la même façon, ça a été même pas examiné. On trouve ça sans intérêt. Bon, donc moi je suis très, très attachée à ce qu'on globalise et qu'on réfléchisse et non pas qu'on dise oh, on va faire ceci, on va faire cela, alors un petit peu moins d'écran. C'est pas simplement cela. C'est vraiment répondre à des questions de fond. Et pour répondre à des questions de fond, il faut que le citoyen redevienne maître du numérique, ce qu'il n'est pas du tout aujourd'hui. Donc, moi, j'ai presque envie de vous dire, évidemment, j'ai été très touchée par la partie qui concerne exercer ses droits. Et que, alors je vais dire, moi, il y a 2 propositions dans exercer ses droits qui me conviennent. Je déroge à l'unicité, mais voilà, c'est pour un droit à la non-connexion administrative, parce que c'est fondamental qu'on puisse avoir la liberté d'avoir recours au numérique ou pas. Et en plus, on pourrait citer tous des exemples dans notre quotidien qui démontrent à quel point, quelquefois, on est dans l'absurde. Et puis, je vais rejoindre mon premier collègue, qui est instituer un droit à la protection de l'attention. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait novateur et important à discuter. Et seul, je vais faire quasiment une proposition, une convention citoyenne du numérique permettrait de poser dans un cahier des charges les questions fondamentales et permettrait de répondre, vous dirigez une association d'éducation populaire, correspondrait à cette nécessité impérieuse, parce que si le citoyen ou la citoyenne qui peuvent être parents ou salariés, sont bien mieux informés des enjeux que représente le numérique dans la multiplicité de ces implications, eh bien, nous pourrons maîtriser, redonner aux citoyens la maîtrise d'un outil qu'ils ne maîtrisent absolument plus, et qui est une sorte et qui répond à il faut que ça aille toujours plus vite, que ça soit toujours plus efficace. Mais est-ce que c'est ça le sens de la vie? En tout cas, chez les écologistes, on pose la question.
Merci beaucoup, Nelly Garnier.
Alors moi, j'ai retenu instituer un droit à la protection de l'attention. Je mettrai pour conformer au programme qu'on porte dans le cadre de la campagne présidentielle avec la candidate que je soutiens, Valérie Pécresse, institue un droit à la protection de l'attention des enfants. Alors vous dites comment ça s'est construit dans notre parcours. Moi, je dirige un observatoire d'études d'opinion dans une grande agence de communication et des médias. Donc je dois avouer que le modèle de la publicité, je connais. Et que, effectivement, ce dont on n'a pas confiance et conscience, vous le savez, quand un service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et c'est vrai que c'est le fonctionnement majoritairement de toutes les grandes plateformes sur Internet où le produit, c'est massivement notre attention. Alors moi, je ne suis pas anti-publicité par principe, mais je pense que le produit, ça soit l'attention de nos enfants, ça devient un problème. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai piloté le groupe de travail numérique pour le programme de Valérie Pécresse, et j'ai tenu à mettre une loi de protection de l'enfance, mais qui soit, je dirais, au-delà de l'information, parce que j'y reviendrai probablement plus tard dans le débat, mais souvent on dit il faut informer les gens, il faut communiquer, faire de la pédagogie sur le fait de tenir... éloigné des écrans, mais le vrai sujet, c'est de comment on travaille. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le by design, et ça a été un peu évoqué tout à l'heure par Monsieur Morel. C'est comment finalement on force les plateformes par défaut à aller sur un design qui soit moins addictif, parce que la réalité, c'est comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est que le monde numérique tel qu'il est conçu et tel qu'il est présenté à nos enfants par des plateformes qu'on peut nommer, c'est Snapchat, Instagram, TikTok, sont des produits addictifs. Et tant qu'on ne reconnaît pas que ce sont des produits addictifs comme on a pu le reconnaître pour le sucre, pour le gras, pour ces boissons sucrées alcoolisées qui ciblent particulièrement les adolescents, ou encore le tabac ou les jeux en ligne, on ne peut pas efficacement mettre une politique de prévention. Et c'est pour ça que nous, notre modèle, c'est le Children's Code qui a été mis en place en Grande-Bretagne et qui demande que par défaut, d'interdire quand par défaut, eh bien, pour les enfants, on aille chercher limiter les phénomènes d'addiction. Et par exemple, c'est l'interdiction de l'enchaînement des vidéos, c'est l'interdiction des notifications à partir d'une certaine heure, c'est l'interdiction des techniques de nudge qui font que vous allez cliquer pour donner le maximum de données, et donc pour les enfants, aller récolter de la donnée inutile. C'est pour mettre des comptes privés par défaut, c'est interdire que des adultes que vous ne suivez pas puissent se connecter avec vous par défaut. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on appelle le by design, c'est-à-dire de vraiment aller travailler parce que bon, c'est la réalité. Moi, je suis mère de famille, je pense que c'est. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à tenir leurs enfants totalement à l'écart de ces plateformes, mais la réalité des parents d'adolescents, c'est quand même qu'il y a cet usage qui s'est massifié et que, effectivement, au-delà de la pédagogie, de l'information des parents, c'est toutes ces règles dont on peut s'inspirer, qui ont été portées effectivement sur la publicité ciblée à l'Europe et par un certain nombre d'initiatives, mais en tout cas qui au Royaume-Uni sont intéressantes, dans ce qu'elles essayent de forcer les plateformes à mettre des conceptions pour les enfants qui soient le moins consommateurs de données inutiles, et donc qu'on ne soit pas en train d'aller chercher en permanence de la donnée par des boutons très attractifs, et essayer de limiter les pratiques dont on sait qu'elles sont addictives et qui sont très bien détaillées dans un documentaire Netflix, parce qu'on n'est jamais à une ou deux contradictions près, mais vous devez connaître, qui était derrière nos écrans de fumée, et qui montre très bien qu'on met le meilleur de la neuroscience pour créer ces phénomènes d'addiction, et vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde. Vous savez que les statistiques, c'est à peu près qu'on regarde son téléphone une vingtaine de fois par heure. Moi, j'avais une étude britannique qui date de 2014 qui disait 220 fois par jour. Mais vous voyez, entre 2014 et 2022, probablement que c'est bien plus élevé, et que quand nous-mêmes adultes, on ne peut pas lutter contre le meilleur de la neuroscience mondiale, eh bien, c'est difficile de demander à des cerveaux non matures de lutter. Et dans ce qu'on a fait dans l'agroalimentaire, avec le Nutri-Score, avec un certain nombre de choses, eh bien, il faut le dupliquer. Mais ça implique vraiment d'abord de reconnaître qu'on est face à des pratiques qui visent à créer de l'addiction.
Merci beaucoup, beaucoup. Donc, on voit que vous avez quand même pas mal couvert le spectre des propositions qui ont été exposées. Il y a une question qui s'impose à moi, qui me frappe. C'est pas du tout celle que j'avais prévu de poser initialement, mais en vous voyant tous là et en vous ayant écouté, j'ai envie de vous demander finalement, est-ce que vous êtes tous d'accord ? Est-ce que, avec toutes vos couleurs politiques finalement très distinctes, est-ce qu'on est sur un sujet consensuel ? Non. Donc ma question, c'est la suivante. À votre avis, et en tout républicanisme évidemment, sur quoi n'êtes-vous pas d'accord ? Sur quoi vos familles, alors pas vous personnellement, mais sur quoi vos familles politiques ne sont-elles pas d'accord sur ces enjeux liés au numérique, à votre avis ? Madame Martinetti.
Bon, moi, je veux bien répondre. Je veux dire, quand, par exemple, il n'y a pas de débat sur la 5G et que lorsqu'on le réclame à corps et à cri, on se fait traiter d'amiche et de retour à la lampe à huile, je ne crois pas que c'est l'expression d'une maturité démocratique d'un État moderne. Il est normal qu'on puisse demander aux citoyens, qui sont des êtres qui ont tous une capacité de réflexion, une expertise de leur propre vie, de pouvoir donner leur avis sur le déploiement d'innovations technologiques. Il ne s'agit pas évidemment d'être contre les innovations technologiques, mais de dire on la déploie, à quoi ça sert, quels sont les effets faste et néfaste que cela va produire, et si le néfaste l'emporte sur le faste, il serait peut-être bon de différer et de reporter l'extension et le déploiement de la 5G. Enfin, on a des instances comme le Haut Conseil au climat qui a rendu un avis très négatif sur cette question de la 5G. Et on s'aperçoit bien qu'en fait, c'est parce qu'on est dans une logique du toujours plus, de la satisfaction de grands groupes. C'est pas par hasard qu'on parle tous du rôle des GAFAM, que l'on ne maîtrise plus. Qui maîtrise aujourd'hui ce système-là ? Et ce que nous disons dans les milieux écologistes, c'est qu'il faut rompre avec ce productivisme, ce consumérisme qui est absolument destructeur, mais destructeur de l'humanité. On va détruire la planète, mais avant, il y aura la destruction de l'humanité, parce que les limites sont finies. Je veux dire, quand on développe le numérique à tour de bras, c'est de la consommation de minerais, c'est la production de gaz à effet de serre, et en plus, c'est changer d'imaginaire. C'est changer d'imaginaire. Il y a des gens, comme moi, mais peut-être aussi autour de moi, qui ont vécu sans, lorsqu'ils allaient quelque part, ils n'avaient pas un téléphone dans la poche. Est-ce qu'on a pu survivre ? Je crois que oui. Bon, donc ça veut bien dire qu'il faut changer d'imaginaire. Et ce n'est pas du tout en retournant vers un passé. Mais pour changer d'un imaginaire, il faut absolument associer les citoyens. Et je suis désolée de le dire, mais dans le milieu politique, nous avons à vraiment progresser en matière de consultation, et pas de consultation, je dirais de co-décision avec le citoyen. Le Merci. Citoyen ne peut pas ne pas être acteur de sa propre vie. Or, aujourd'hui, c'est les GAFAM qui sont acteurs de nos vies et dont nous subissons les effets.
Merci beaucoup. Du coup, ce que j'entends, c'est que là, votre réponse à ma question, c'est que les lignes de fracture importantes pour vous, que vous voyez, c'est le rapport au productivisme, à la croissance, d'une part, d'autre part, la capacité à mettre en débat et à faire entrer de la co-décision dans ces questions-là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Oui. Maxime Desgaillet.
Alors oui, on peut être d'accord sur des propositions. Je pense qu'on a des cheminements qui sont profondément différents. Alors si on est honnête entre nous, on peut être d'accord sur des propositions, même en étant très en contradiction avec ces propositions. On peut se le dire. Ma collègue de la région le sait, la région Île-de-France, et je vous entendais avec intérêt, la région Île-de-France est passée massivement aux tablettes, pour des coûts d'ailleurs particulièrement élevés, parce que c'était un choix qui avait été fait à ce moment-là. La question aujourd'hui qui nous traverse, nous socialistes, qui est d'abord, effectivement, pas d'abord, mais aussi de travailler à la fracture entre ceux qui ont accès au numérique ou pas au numérique, peut quelquefois apparaître en contradiction avec ce qu'on évoque. Donc c'est pas un débat évident. Et puis je ne parlais pas, mais de ma collègue à côté de moi, qui le sait, on a eu une espèce de fascination pour la Startup Nation ces dernières années. Alors, on a tous en tête les grands sommets, avec y compris des représentants des GAFAM, qui laissaient entendre que tout ça allait nous transposer dans un monde qui serait potentiellement meilleur. Ça, c'est nos contradictions. Je disais qu'on avait des cheminements différents et à la fin, on peut se retrouver sur des propositions. Moi, mon sentiment, il y a d'abord la question du rapport au numérique comme technologie. Et moi, je fais partie d'une famille politique qui n'y est pas opposée par principe. Voilà. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure et on s'est rejoint d'ailleurs à quelques-uns. Moi, il me semble que la question du numérique pose de manière plus intense qu'avant la question du capitalisme et la question de la place du marché, c'est l'extension du domaine du marché. Et là encore, ça pose des sujets alors, qu'on devrait normalement aborder dans des élections présidentielles, mais je ne suis pas certain que celles qu'on conduit actuellement permettent de toucher ce genre de discussions, qui sont des discussions lourdes. La question qui est posée, c'est que Emmanuel Morel parlait de la société de marché. On est passé de l'économie de marché à la société de marché. Nous avions en tête, j'imagine qu'en tête comme moi, ce que pouvait dire un ancien premier ministre socialiste sur où il y a l'économie de marché, non, la société de marché. La réalité, c'est que par le numérique, on a laissé l'extension du marché et qu'il y a une question, et j'en terminerai par là, qui se pose et qui dépasse la question numérique, c'est qu'est-ce qui doit être monétisable ou pas dans notre société. Vous avez tous, j'imagine, en tête, puisque c'est un auteur connu maintenant, mais les travaux de Sandel, qui est un philosophe américain, qui expliquait très justement, par des exemples assez parlants, qu'aujourd'hui, vous pouvez aller à Disney World, alors je ne suis pas certain que grand monde y aille ici, aux États-Unis, vous pouvez louer des personnes en situation de handicap, parce que ça vous sert de coupe-fil. Bah oui, c'est légal aux États-Unis. Mais ça nous fait sursauter. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'acheter et de vendre dans notre société? Beaucoup de choses. Les données, l'attention. On a décidé de la monétiser. Et donc la question qui nous est posée, qui est une question essentielle pour toute société, c'est décide-t-on de remettre... Alors il y a des gens qui seront contre le marché... Il y en a d'autres qui peuvent considérer, et c'est notre cas, qu'aujourd'hui, il faut créer de nouvelles bornes parce qu'on a laissé, année après année, le marché continuer à se développer et il a utilisé comme véhicule la question du numérique. Et donc, c'est là où on peut arriver à des positions communes, mais il y a d'abord des débats plus importants et puis il y a un sujet, c'est est-ce que le numérique est une expression de ça, plus intense, ou est-ce qu'on considère, et ça, c'est d'autres débats sur lesquels on peut être en désaccord, est-ce qu'on considère qu'effectivement, cette technologie est bonne ou pas bonne? Moi, je considère qu'aujourd'hui, elle est surtout aux mains du capitalisme, et c'est ce sujet-là qui mérite d'être posé.
Oui, allez-y, peut-être rapidement.
Oui, moi, je vais être très, très, très rapide, parce que je ne suis pas très à l'aise avec cette question, puisque moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas le numérique. Enfin, je peux... un outil dont on ne peut pas se passer. Mais moi, mon grand questionnement actuellement, c'est le relationnel, en fait. Voilà, ce qui casse, et c'est pour ça que j'aimais bien votre proposition aussi du droit au non-numérique, de pouvoir avoir un téléphone, se parler. Enfin, moi, je me souviens encore il y a 10 ans, on pouvait appeler quelqu'un de la CAF et lui poser des questions. Et on avait en plus souvent des gens bienveillants, enfin, en termes de parentalité, etc. Donc, je suis assez mal à l'aise pour défendre... Enfin, voilà, je le dis avec simplicité, hein, et franchise, puisque moi, se pose... Vous parliez du système économique. Moi, ce qui me questionne, c'est le relationnel, la gestion des conflits et le numérique. Voilà, et tout ce que ça peut engendrer de violence.
Ce que j'entends au travers de ces différentes réponses, c'est qu'il y a quand même beaucoup de contradictions à la fois en nous-mêmes, quoi, mais aussi parfois au sein d'une famille politique. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, même peut-être parfois, un peu, je sais pas, je veux pas parler à votre place, mais isolé sur certaines questions, sur certaines positions. Liées au numérique. Si vous voulez témoigner là-dessus, moi, ça m'intéresse. Comment est-ce que finalement, contre quoi on avance quand on essaie de progresser sur ces questions numériques ? Contre quoi on se bat ? Contre quelles inerties ? Parfois, ça peut être en soi, parfois ça peut être au sein de sa famille politique, ou parfois vous parlez tout simplement du lobbying, hein, des millions d'euros dépensés en lobbying. Contre quoi on se bat, contre quoi on bute en fait, quand on essaye de cheminer sur ces questions-là?
Déjà, on se bat contre les forces du capital, hein. Je ne saurais pas être un peu archaïque, mais y a, ce qui est commun à tout le monde, c'est la sidération face à l'accélération. Moi, je trouve que les travaux d'Hartmut Rosa sur la société de l'accélération, elles conviennent bien, finalement, à ce turbo-capitalisme, c'est-à-dire, en fait, comment le capitalisme, et c'est ça le génie du capitalisme, récupère immédiatement une innovation technologique pour aller vers un but précis qui est toujours le même. Et c'est peut-être en ça que je suis archaïque, c'est-à-dire l'accumulation du capital. Et de ce point de vue-là, par rapport à ma première intervention, je persiste. Je pense que face à une aliénation complémentaire, notre travail, c'est un travail qui vise à l'émancipation. Mais pour ça, il faut être capable d'un combat frontal. Et quand je dis un combat frontal, c'est-à-dire que la régulation seule, à mon avis, ne suffit pas. Il faut avoir aussi, à un moment, des outils pour démanteler... pour collectiviser, voire même pour déconnecter. Alors, je vois bien que ça a un côté peut-être un peu révolutionnaire, mais je considère que c'est un combat nécessaire. Par exemple, face aux GAFAM, la question aujourd'hui qui se pose, c'est pour ça que notre débat au Parlement européen était intéressant, mais nécessairement insuffisant. C'est pas tant la régulation que le démantèlement pur et simple d'oligopoles privés qui ont trop de puissance et qui en plus, je disais tout à l'heure, portent une idéologie mais ont un rapport à la démocratie qui est problématique. Le PDG de Google, il est venu je crois que c'était le Congrès américain, et il a dit la démocratie, c'est-à-dire la lenteur de la délibération collective, c'est pas efficace. Et nous, on vous propose autre chose. De la même façon, quand Facebook travaille sur les crypto-monnaies et sur sa propre monnaie, c'est-à-dire qu'elle considère aujourd'hui que l'émission de la monnaie, qui est normalement l'apanage de la souveraineté d'un État ou d'un collectif d'États, bah, c'est pas efficace, ça va pas assez vite. Et d'ailleurs, le débat sur les crypto-monnaies là, en ce moment, ou sur la blockchain, ne devrait pas être seulement un débat technologique, mais c'est un débat politique et économique. C'est est-ce que oui ou non, on considère qu'il y a des acteurs privés qui, sous couvert de décentralisation, de liberté et tout ça, oui, mais je finis avant de... Je voudrais bien répondre, mais je finis juste mon développement. Sous couvert de décentralisation, est en train, tout simplement, d'aller à l'encontre de la volonté des États et aussi de la volonté citoyenne. Donc, on est dans un combat frontal. Et une technologie, par définition, il faut que, si on se met d'accord sur son utilisation, il faut que les citoyens aient leur mot à dire au début, au milieu, à la fin. C'est pas le cas. C'est pas le cas, pourquoi ? Parce que la technologie, aujourd'hui, elle est totalement happée Par le capital, par les intérêts privés. Et donc forcément, alors ça n'empêche que, et là-dessus, moi je rejoins les écologistes, c'est-à-dire la question du productivisme, de l'extractivisme, de tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est vrai que spontanément, quand on parle du numérique, on ne parle pas, ça c'est vrai, on ne parle pas de la pollution qu'elle engendre. Et d'ailleurs, le numérique est parfois même présenté comme quelque chose qui va permettre la transition écologique. Bah, c'est pas vrai. Ça entrave la transition écologique. Quand on voit ce que ça, à la fois les coûts de production et les coûts d'utilisation, c'est une catastrophe écologique. En plus d'être une catastrophe économique et une catastrophe démocratique. Donc oui, bah à un moment, il faut s'organiser politiquement pour résister à cette société de marché. Et parfois même à l'économie de marché dans certains domaines.
Merci beaucoup. J'ai bien noté, hein, y a une question, on y revient juste après, je vais clôturer bientôt, on va passer à la parole à la salle. Peut-être, Nelly Garnier, vous avez envie de rebondir, notamment sur cette question de la souveraineté et du poids du monopole des GAFAM et dans la manière dont ça structure finalement le débat public.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, moi, vous savez, juste pour revenir sur les contradictions, c'est très compliqué les sujets du numérique. Moi, j'y suis allée par l'enjeu démocratique parce que j'étais très inconfortable avec une sorte de contradiction qui était qu'il y avait tout ce discours sur les réseaux sociaux de dire que c'est la rageosphère, qu'il faut permettre aux GAFAM de modérer le contenu, ce qui pouvait s'apparenter quand même à une forme de censure. En tout cas, moi, je voyais que dans mes assemblées, par exemple, quand je parlais, on pouvait avoir certains propos et puis mes collègues du Rassemblement National, de la France Insoumise ou autres, quand ils tenaient les mêmes propos sur les réseaux sociaux, ils étaient censurés sans explication par les plateformes. Et d'un autre côté, moi je suis connue pour être la féministe de droite parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai été très engagée sur les mouvements MeToo et j'ai toujours été persuadée qu'il n'y aurait pas eu les mouvements MeToo sans les réseaux sociaux parce que ça a rééquilibré entre la parole d'un homme puissant, la parole de milliers, de centaines de milliers d'anonymes est venu rééquilibrer la différence de parole. Et donc, je me suis dit, il y a une forme de contradiction et je me suis intéressée comme ça au numérique, par l'enjeu démocratique. Et quand je m'y suis intéressée, j'ai été obligée de m'intéresser au Web3, aux crypto-monnaies. Au début, je ne comprenais rien du tout. À la deep tech, enfin c'était une catastrophe, donc je suis devenue déléguée spéciale à la Smart Région, ce que ma mère ne comprenait pas ce que ça voulait dire, et c'est vrai que je pense qu'il y a un des gros problèmes du numérique, c'est que souvent on dit l'électronisme comme si c'était, on était des analphabètes, c'était uniquement les gens très éloignés, en précarité, personnes âgées, milieu très rural, mais je vais vous dire, moi j'étais quand même en électronisme majeur quand je me suis lancée sur le sujet des numériques, et le problème, c'est qu'on a un régulateur et un législateur qui souvent ne comprend pas les enjeux du numérique. Et en tout cas, qui ne voit pas tout ce qui peut aller derrière. Et je pense à la régulation sur les GAFAM. Alors, le gros, on voit bien que, vous savez, quand Facebook a dépassé les 500 millions d'utilisateurs, on a dit que c'est le troisième État au monde. Et donc, l'enjeu aujourd'hui par rapport aux GAFAM, c'est que les pouvoirs publics essayent en permanence de donner des gages aux citoyens qu'ils font un bras de fer, qu'ils sont en train de rééquilibrer le pouvoir. Et on voit toujours que c'est très compliqué, parce que la taxe GAFAM, où on s'est dit bravo, on est très très fort, on va les faire payer, ils l'ont immédiatement répercuté sur leurs partenaires. Que la modération des contenus, elle a aussi ses limites, comme je l'ai dit, puisque finalement, quand vous demandez aux GAFAM de modérer les contenus, vous faites des plateformes, les gardiens du débat public, avec des techniques de modération ou de pour faire diminuer la visibilité d'un contenu comme le shadow banning, qui sont à moitié en opacité. Donc c'est aussi problématique parce que vous avez la question par exemple du RGPD. Moi, dans tous les interlocuteurs que j'ai vus, j'ai beaucoup d'acteurs moyens ou petits qui m'ont dit finalement on l'a fait pour contraindre les gros et puis finalement eux ils ont des armées de juristes, ils ont quasiment des cabinets d'avocats internes et nous on ne peut plus suivre. Donc on voit bien qu'on est sur des enjeux très complexes que les citoyens ne comprennent pas forcément ou uniquement dans leur usage parce qu'on n'est pas sur tous les usages. J'imagine que vous n'êtes pas tous détenteurs de crypto-monnaies, donc c'est compliqué de voir comment on va réguler et en même temps on peut être opposé à la crypto-monnaie mais ne pas pousser la fintech française, c'est prendre le risque plus tard que ça soit uniquement des acteurs étrangers, que ça arrive quand même et que ça arrive uniquement par des acteurs étrangers comme ça arrivait sur le secteur du cloud, ce qui nous amène à la situation du Health Data Hub que vous avez cité, qui est qu'on a confié nos données de santé sans appel d'offres à Microsoft alors même qu'on a des acteurs du cloud en France, comme OVH ou Scaleway, mais comme on n'utilise pas la précommande publique ou les marchés publics pour les faire monter en puissance et qu'on considère que par principe qu'on a laissé les acteurs américains qui disent bah, on est les meilleurs, les Français ils auront pas, ils vous assureront pas la cybersécurité. Donc tout ça pour dire qu'effectivement c'est complexe, qu'effectivement nous on pense qu'il y a un potentiel économique, qu'on va avoir besoin d'un million d'emplois dans le secteur du numérique, que si on veut faire du numérique responsable, il faut aussi former des gens qui peuvent avoir des valeurs, qui vont faire du numérique autrement, et que donc on a ciblé les formations professionnelles et on a fait rentrer les tablettes en Ile-de-France, d'ailleurs qui ne sont pas des tablettes, contrairement à ce qui a été fait par l'État, qui sont des tablettes des ordinateurs qui sont produits par une entreprise française. Donc voilà, les sujets sont complexes, mais je crois que le vrai enjeu, c'est déjà un enjeu de connaissance, mais un enjeu de connaissance aussi bien pour le citoyen que pour le régulateur et pour le législateur. Mmh. Vous voyez, dans les assemblées, comme vous le dites, généralement, nous-mêmes, quand on est élu, ben on a un coup d'entrée qui est important. Mmh. Mmh.
Merci beaucoup. Je crois que le temps est venu d'ouvrir le débat avec la salle. Voilà.
Cause commune, la voix des communs.
C'était la troisième table ronde des Assises de l'Attention, intitulée « Attention et politique, quelle politique pour une planète menacée par le numérique ?» avec Emmanuel Morel, Dominique Bertinotti, Nelly Garnier, Bénédicte Pétel et Maxime Dégaillé. Les Assises de l'Attention ont été enregistrées et diffusées en direct sur Cause Commune 93.1 FM le 19 mars 2022 à la Bellevilloise, et elles ont été organisées par le collectif Attention. Vous pourrez retrouver quelques références bibliographiques sur la fiche podcast de cette table ronde sur le site cause-commune.fm à l'onglet « Comme si vous y étiez », ainsi qu'un lien vers le site du collectif Attention, collectifattention.com, où vous pourrez retrouver toutes les associations membres du collectif, leurs actions et leurs propositions pour lutter contre la surexposition aux écrans. Un grand merci à Yves-Marie et Florent Souillot de l'association Lève les yeux pour avoir accepté cette production. Merci à l'équipe technique de la Bellevilloise pour son accueil et sa coopération. Merci à toutes les associations et aux intervenants de ces assises. Merci enfin pour votre écoute. Cette captation a été réalisée et montée par Baptiste Martin. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés sur Cause Commune.